إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers frères et sœurs, comme vous le savez, le mois de Ramadan arrive à sa fin et il est nécessaire pour nous de savoir que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prescrit pour nous en cette fin de mois une adoration immense qui est une aumône obligatoire pour tout musulman à verser à la fin du mois de Ramadan. Cette aumône est appelée Zakatul Fitr, que l'on peut traduire par l'aumône de la rupture. Elle est appelée ainsi car elle devient obligatoire au moment de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Et cette aumône est d'une grande importance pour le musulman, car elle est pour lui une purification de tout ce qu'il aurait pu prononcer durant son jeûne, comme paroles fausses et propos honteux, comme il est venu dans le hadith. C'est-à-dire que cette aumône, elle vient compléter et compenser les manquements que tu as pu avoir durant ton jeûne. C'est pour cela que les gens de science l'ont comparé en ce sens aux deux prosternations de l'oubli, qui, elles, viennent compenser les erreurs qui peuvent avoir lieu dans la prière. On voit donc que cette zakat, elle ne doit pas être négligée. Et comme toute autre adoration, elle doit remplir deux conditions pour être acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première de ces conditions est que tu la verses sincèrement pour Allah, en ne recherchant à travers le versement de cette aumône que la satisfaction de ton Seigneur. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte de nos œuvres que celles qui sont accomplies exclusivement pour lui. Quant à ceux qui accomplissent des œuvres par ostentation, ou pour recevoir les compliments des gens, ou pour que l'on dise qu'ils sont généreux, alors ceux-là, leurs œuvres sont rejetées, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. La deuxième condition est qu'il est impératif que tu verses cette zakat, cette aumône, de façon conforme à ce qu'a légiféré pour nous notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car ce qui n'est pas conforme à la législation est aussi rejeté, aussi sincère soit son auteur. Comme il est venu dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, son œuvre sera rejetée. Elle ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala même si celui-ci est sincère. Il est donc obligatoire pour tout musulman d'apprendre ce qui est légiféré ou non avant même d'accomplir une action, afin que celle-ci soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu ne pourras pas te conformer à ce qui est légiféré si tu n'as pas appris ce qui est légiféré. Tu dois donc apprendre les règles de tes adorations et parmi elles, les règles de cette zakat, Zakatul Fitr, afin de t'en acquitter d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui à travers cette courte conférence dans laquelle nous allons nous rappeler l'essentiel à savoir au sujet de cette aumône. Donc premièrement, quel est son jugement? Quel est le jugement de Zakatul Fitr? C'est-à-dire, est-elle obligatoire ou simplement recommandée? La réponse est que Zakatul Fitr est une obligation, comme le démontre le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit l'aumône de la rupture de Ramadan. » A prescrit, c'est-à-dire a rendu obligatoire, a commandé l'aumône de la rupture de Ramadan, un sa'a de date ou un sa'a d'orge pour le libre et l'esclave, l'homme et la femme, l'adulte et l'enfant, parmi les musulmans. On voit donc à travers ce hadith que cette obligation est une obligation générale et concerne tout musulman sans distinction d'âge ou autre. C'est une obligation qui concerne aussi bien les hommes que les femmes, les adultes que les enfants, et ce qu'ils soient pubères ou non, à condition que la personne possède de quoi subvenir à ses besoins indispensables et à ce qui est nécessaire pour elle et les personnes à sa charge le jour de l'Aïd et sa nuit, et qu'il possède en plus de cela de quoi pouvoir s'acquitter de cette zakat. À supposer qu'un homme possède de quoi subvenir à ses besoins essentiels pour le jour de l'Aïd et sa nuit, et qu'en plus de cela, il ne possède, par exemple, que de quoi acheter 3 kilos de pâtes. Alors dans ce cas-là, l'aumône est obligatoire pour lui. Il est obligatoire pour lui de verser cette aumône car il a les capacités de la verser, même s'il ne possède rien d'autre après cela. Quant à celui qui ne possède pas de quoi se nourrir le jour de l'Aïd et sa nuit, ou alors qu'il possède de quoi se nourrir mais il ne possède pas de quoi subvenir aux besoins essentiels de sa famille le jour de l'Aïd et sa nuit, alors celui-ci est exempt de cette zakat. Donc en résumé, elle est obligatoire, mais elle n'est obligatoire que sous deux conditions. La première condition est l'islam, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire pour le mécréant, mais seulement pour le musulman. Et ce n'est pas une condition que ce musulman ait jeûné le mois de Ramadan. Si par exemple, il était malade et il n'a pas pu jeûner, il doit tout de même verser zakat al-fitr. Si par exemple, c'est une femme qui était enceinte et n'a pas pu jeûner, elle doit tout de même verser zakat al-fitr. Si par exemple, c'est une personne qui est âgée et qui ne peut plus jeûner, qui n'a plus les capacités physiques de jeûner, alors il doit tout de même verser zakat al-fitr. Et ainsi de suite. Ce n'est pas une condition d'avoir jeûné le mois de Ramadan. De même, ce n'est pas une condition que la personne soit pubère. Comme on l'a vu, elle est versée également pour l'enfant, même si ce n'est qu'un nourrisson. Et également, ce n'est pas une condition que la personne soit douée de raison. Mais cette zakat doit aussi être versée pour les personnes musulmanes qui ont perdu la raison, comme cela peut arriver à une personne âgée, par exemple, qui perd son discernement. Cette zakat reste tout de même obligatoire pour elle. Donc, celui qui a la charge de cette personne doit verser la zakat en son nom. Et il est recommandé de la sortir même pour le fœtus, l'enfant qui se trouve dans le ventre de sa mère, si l'âme lui a été insufflée, c'est-à-dire après 4 mois de grossesse. Car certains de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, sortaient la zakat pour le fœtus, comme cela est confirmé de Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, et autre que lui. La deuxième condition est que tu possèdes des denrées supplémentaires à tes besoins essentiels et à ce qui est nécessaire pour toi et ta famille le jour de l'Aïd et sa nuit, comme on l'a mentionné dans l'exemple. Et qui doit sortir cette zakat? Est-ce que chacun la verse pour sa propre personne, ou est-ce que c'est une obligation qui incombe au chef de foyer? La réponse est que les savants ont divergé sur cette question. Certains considèrent qu'il n'y a pas de différence entre cette zakat et les autres obligations religieuses. Il incombe donc à chacun de verser sa propre zakat. D'autres soutiennent qu'il est obligatoire pour l'homme de la sortir pour lui ainsi que pour tous ceux qui sont à sa charge, comme son épouse, ses enfants, ses parents ou autres parmi ses proches qui peuvent être à sa charge. Et quoi qu'il en soit, que chacun verse sa propre zakat ou que le responsable de foyer la verse pour tous ceux qui sont à sa charge, alors dans les deux cas, cela est valide, inshallah ta'ala. La deuxième question que l'on va voir aujourd'hui concerne la mesure obligatoire de cette zakat. Et qu'est-ce qui doit être versé? La réponse est que cette zakat doit impérativement être versée en nourriture, comme l'a prescrite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas permis de la sortir d'une autre manière, que ce soit en monnaie, en or, en argent, en vêtements, en mobilier ou autre que cela. Car ceci s'oppose à ce qu'a légiféré notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et les preuves sont nombreuses à ce sujet. Et on va mentionner ici 3 hadiths. Le premier hadith est le hadith que l'on vient de mentionner, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. D'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit zakat al-fitr, l'aumône de la rupture du mois de Ramadan. Puis il dit, mentionnant ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit, un sa'a de dattes ou un sa'a d'orge pour le petit et le grand, l'homme libre et l'esclave, l'homme et la femme parmi les musulmans. On voit donc que Abdullah ibn Omar nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit. Cela désigne qu'il a commandé, expressément. Il a donné un ordre précis, qui est de donner un sa' de nourriture. Donc, si quelqu'un donne de l'argent à la place de la nourriture, il n'a pas respecté cet ordre explicite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième hadith est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, dans lequel il a dit: nous avions pour habitude au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la verser d'un sa' de nourriture, et notre nourriture était les dattes, l'orge, les raisins secs et al-aqit, qui est une sorte de fromage séché. On voit donc dans ce hadith qu'il nous dit clairement qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette zakat n'était versée qu'en nourriture. Pourtant l'argent était présent. Ils avaient des pièces d'or et d'argent desquelles ils se servaient lors de leurs transactions. Mais ils n'ont versé cette zakat qu'en nourriture, car ils se sont soumis à ce qu'a prescrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ont compris que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cela, c'est que cette zakat ne doit être versée qu'en nourriture. Ils ont donc continué après lui à mettre en pratique cela. Ceci nous prouve donc également qu'il est obligatoire de la sortir en nourriture. Enfin, le troisième hadith est le hadith de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qui est rapporté par Abu Dawud et Ibn Majah, et qui a été authentifié par Al-Albani, rahimahumullahu ta'ala. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, dit dans ce hadith: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a prescrit zakat al-fitr. C'est une purification pour le jeûneur des paroles futiles et des propos obscènes, et une nourriture pour les pauvres. Mais dit sur cela, il dit une nourriture pour les pauvres. Il n'a pas dit une aumône pour les pauvres, ou une sadaqa pour les pauvres, ou de l'argent pour les pauvres, ou des biens pour les pauvres. Mais il a dit une nourriture pour les pauvres. On voit donc très clairement qu'il n'est en aucun cas question d'argent ici, mais seulement de nourriture. Donc si tu souhaites que ton aumône soit acceptée, il est impératif, comme on a dit, que tu te soumettes à ce qu'a prescrit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et pour plus de détails sur cette question, je vous invite à écouter une intervention que j'ai donnée l'an passé, qui est intitulée « Zakat al-Fitr, nourriture ou argent ». Celle-ci est disponible en ligne sur notre site, annasiha.com. Donc cette zakat, comme on a dit, elle est versée en nourriture. Reste à savoir, quelle est la nourriture que je peux donner pour cette zakat? Est-ce que je peux donner tout type de nourriture? Ou alors, est-ce qu'il y a des types de nourriture bien précis qui sont légiférés? La réponse, elle nous est venue dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, qui a dit: nous avions pour habitude au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la verser d'un sa' de nourriture. Puis il dit: et notre nourriture était les dattes, l'orge, les raisins secs et la quête. On comprend donc de cette deuxième phrase qu'il dit dans ce hadith que la nourriture qui doit être versée pour zakat al-fitr, c'est la nourriture commune des gens du pays. Et leur nourriture à cette époque était les dattes, les raisins secs, et ainsi de suite parmi ce qui est mentionné dans les hadiths. Donc, en ce qui nous concerne, pour la plupart d'entre nous dans les pays où nous vivons, la nourriture commune des gens du pays, parmi les denrées de base, ce sont généralement le riz, les pâtes, le couscous, la semoule, la farine, les lentilles ou les haricots secs, et ainsi de suite, parmi les denrées de base qui sont consommées communément par les gens. Et la personne doit veiller à verser ce qu'il y a de plus profitable pour la personne qui va recevoir cette aumône. Dans certains pays, par exemple, les gens vont consommer plus de riz que de pâtes. Donc, on préférera verser du riz. Dans d'autres pays, c'est l'inverse, et ainsi de suite. On regardera en cela ce qui est profitable pour la personne qui recevra cette aumône. Et la mesure obligatoire, comme il est venu dans les hadiths que vous avez entendus, est d'un sa'a. Et qu'est-ce que le sa'a? Le sa' est une unité de mesure qui était utilisée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celle-ci équivaut à 4 moud, qui est une autre unité de mesure. Et le moud, il équivaut à ce que peuvent contenir les deux mains jointes d'un homme de taille moyenne. C'est-à-dire qu'il joint ses deux mains et prend par exemple une quantité de riz. Ceci est un moud. Et le sa' équivaut à 4 moud. On comprend donc que le sa' équivaut plutôt à un volume qu'à un poids. À partir de là, on va trouver, dans les paroles des savants, différents poids donnés en équivalence pour le sa'a. Certains vont dire 2 kilos et 40 grammes, d'autres vont dire 2 kilos 500, d'autres vont dire 2 kilos 600 et ainsi de suite. Et ce quart, en fonction de la nourriture qui sera donnée, le sa'a ne fera pas le même poids. Un sa'a de riz ne fait pas le même poids qu'un sa'a de dattes. Un sa'a de pâtes ne fait pas le même poids qu'un sa'a de raisin sec. Un sa'a de farine ne fait pas le même poids qu'un sa'a de couscous ou de semoule, et ainsi de suite. Et même pour les mêmes nourritures, le poids peut varier selon la sorte et la qualité. Un sa'a de riz basmati, par exemple, ne fera pas le même poids qu'un sa'a de riz à petits grains. À partir de là, on comprendra que celui qui n'a pas les capacités de savoir l'équivalence exacte du sa'a, alors le mieux pour lui est de faire prévaloir la prudence et de verser 3 kilos, quel que soit l'aliment qu'il donne pour sa zakat. C'est-à-dire que tu donnes 3 kilos d'un seul et même aliment par personne pour zakat al-fitr. Et c'est ce qu'a préconisé l'éminent cheikh Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Car en versant 3 kilos, quel que soit l'aliment que tu donneras en zakat, tu seras sûr, bi'idhnillahi ta'ala, d'avoir atteint le sa'a. Et ce qui dépasse de cela est une aumône en plus de ta part pour laquelle tu seras récompensé auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant au fait de se baser sur certains tableaux qui circulent depuis de nombreuses années sur Internet avec des poids précis en fonction des aliments, alors en se basant sur cela, tu risques dans certains cas de donner moins qu'un sa'a pour ta zakat. Pourquoi? Car ce tableau, il a été fait en se basant sur une sorte d'aliment qui est présente dans le pays où ces poids ont été évalués. Par exemple, pour le riz, ils se sont basés sur le riz qui est vendu communément dans leur pays et que l'on retrouve dans les différents commerces. Pour les dattes, ils se sont basés sur un type de datte qui est communément présent dans leur pays et que l'on retrouve dans les commerces. Et ce riz et ces dattes ne sont pas forcément les mêmes qui sont présentes dans notre pays. Il se peut que le riz qui est vendu dans leur pays, un sa'a équivale à 2,4 kg par exemple, mais que le riz que moi je vais sortir en aumône dans mon pays, pour atteindre le sa'a, j'aurai besoin de verser 2,8 kg. Donc l'obligation est de verser un sa'a. Si tu as la capacité de verser le sa'a, fais-le. Si tu ne sais pas comment faire, alors donne 3 kilos. Comme ça, tu seras sûr, bi'idhnillahi ta'ala, d'avoir donné un sa'a en aumône. Et j'attire votre attention que le sa'a ne doit être composé que d'un seul et même aliment. C'est-à-dire que lorsqu'on dit 3 kilos par personne, c'est 3 kilos d'un seul et même aliment. 3 kilos de pâtes, 3 kilos de riz, 3 kilos de lentilles, 3 kilos de semoule, et ainsi de suite. On ne donne pas pour une personne 1 kilo de pâtes, 1 kilo de riz et 1 kilo de lentilles. Il est impératif que le sa'a ne soit composé que d'un seul et même aliment. La troisième question est quand cette zakat devient obligatoire et quand doit-elle être versée? La réponse est que zakat ul-fitr devient obligatoire au coucher du soleil la veille de l'Aïd, car c'est le moment où a lieu la rupture de Ramadan. C'est-à-dire qu'au coucher du soleil, cette aumône devient obligatoire. Et cette question est très importante à connaître en cas de mort ou de naissance. Je m'explique. À supposer qu'une personne meure le dernier jour du mois de Ramadan, avant le coucher du soleil. Alors, on ne devra pas verser zakat al-fitr pour elle. Mais si elle meurt après le coucher du soleil, après le maghrib, alors dans ce cas-là, il sera obligatoire de verser zakat al-fitr pour cette personne, car elle a atteint le moment de l'obligation. De la même manière en ce qui concerne une naissance, on a vu qu'il est recommandé de verser zakat al-fitr pour le fœtus, pour l'enfant, qui se trouve dans le ventre de sa mère à partir de 4 mois de grossesse. Si l'enfant naît avant le coucher du soleil, le dernier jour du mois de Ramadan, alors, étant présent au moment du coucher du soleil, il sera obligatoire de verser zakat al-fitr pour lui. Mais s'il naît après le coucher du soleil, étant donné qu'il n'était pas présent au moment de l'obligation, celle-ci n'est pas une obligation mais reste recommandée. Quant au moment de son versement, les gens de science ont mentionné qu'il y a deux temps pour la verser. Un temps qui est meilleur et plus méritoire, et un temps de permission. Le temps le plus méritoire commence au lever de l'aube le jour de l'Aïd et dure jusqu'au moment qui précède l'accomplissement de la prière de l'Aïd. Comme le démontre le hadith rapporté par Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné l'aumône de la rupture avant que les gens sortent à la prière. Donc ceci est le moment le plus méritoire. Mais si tu crains de ne pas avoir le temps de la sortir à ce moment, ou de ne pas trouver de pauvre à ce moment, à qui la donner? Dans ce cas-là, il y a un temps de permission. Et ce temps de permission est avant l'Aïd d'un ou deux jours, comme cela nous est rapporté de certains parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anhum, à l'exemple de Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhum. Il est donc permis, un ou deux jours avant l'Aïd, de remettre cette aumône à un pauvre. Mais si tu la remets à une personne ou à une organisation qui se charge de récolter cette zakat, il est permis de leur donner avant, à condition que eux ne la donnent qu'au moment légiféré, qu'au moment prescrit, c'est-à-dire un ou deux jours avant l'Aïd et pas avant. Enfin, il faut savoir qu'il n'est pas permis de retarder cette aumône après la prière de l'Aïd. Si la personne la retarde volontairement, c'est une aumône parmi les aumônes. Et il est dans le péché pour ce retard. Comme le démontre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui a dit: quiconque la verse avant la prière, alors c'est une aumône acceptée. Et quiconque la verse après la prière, alors c'est une aumône parmi les aumônes. Elle ne sera pas comptée comme étant l'aumône de la rupture. Sauf s'il a une excuse. Si par exemple une personne a oublié, il avait l'intention, le matin après la prière du Fajr, de donner zakat al-fitr à un nécessiteux. Et qu'il sort de chez lui, et lorsqu'il arrive au musalla pour la prière de l'Aïd, il se rend compte qu'il a oublié la zakat. Dans ce cas-là, il est excusé et après la prière, il ira lui donner immédiatement, Inch'Allah ta'ala. La quatrième question: et à qui dois-je donner cette aumône? La réponse est qu'elle doit être donnée aux pauvres parmi les musulmans. Il n'est donc pas permis de la donner à un mécréant, même s'il est pauvre. Et il n'est pas permis de la donner à un riche, même s'il est musulman. Et le pauvre, comme l'ont mentionné les gens de science, c'est celui dont les biens ou les revenus annuels ne lui suffisent pas à combler ses besoins essentiels ainsi que les besoins essentiels des personnes à sa charge. Les pauvres, ce ne sont pas que les mendiants que tu vois dans la rue. Ce n'est pas forcément une personne qui dort dehors. Mais c'est une personne dont les revenus ne lui suffisent pas à combler ses besoins essentiels. Si par exemple, il a un salaire, même si celui-ci est élevé, mais qu'il a un loyer à payer, des charges à payer, qu'il a plusieurs enfants, qu'il doit nourrir, qu'il doit vêtir, et que chaque fin de mois, il se retrouve contraint d'emprunter de l'argent, car ses revenus ne lui suffisent pas pour subvenir aux besoins essentiels de sa famille. Alors dans ce cas-là, celui-ci fait partie des pauvres à qui il est permis de donner zakat al-fitr. Et il est permis de donner la zakat en la partageant entre plusieurs pauvres. Si par exemple quelqu'un a une famille nombreuse et qu'il a 30 kilos de nourriture à donner, il peut donner, par exemple, 10 kilos à 3 pauvres. Il n'y a pas de gêne en cela. Et de la même manière, il est permis de donner à un seul et même pauvre plusieurs zakats, en lui donnant la zakat de plusieurs personnes. Tout ceci est valide, Inch'Allah ta'ala. Et j'attire votre attention que les gens de science ont mentionné que cette zakat doit être versée à l'endroit où on se trouve au moment de son obligation, aux pauvres de l'endroit où on se trouve, dans sa ville. Le musulman doit donc faire des efforts afin de trouver des personnes nécessiteuses à l'endroit où il se trouve. Et si réellement il n'en trouve pas, qu'il n'y a pas de nécessiteux où il se trouve, ou alors qu'il ne les connaît pas, et qu'il ne trouve aucun moyen de les connaître, alors il n'y a pas de gêne à ce qu'il envoie cette aumône dans cette situation, dans une autre ville ou dans un autre pays. Mais il doit faire des efforts. Et les nécessiteux sont bien plus nombreux qu'on le pense. Wallahu al-musta'an. Donc pour résumer, les cinq choses essentielles à savoir sur zakat al-fitr, nous dirons premièrement que celle-ci est obligatoire pour tout musulman, homme, femme, adulte ou enfant, doué de raison ou non. À partir du moment où il possède, en plus de ce dont il a besoin le jour de l'Aïd et sa nuit, un excédent lui permettant de la verser. Et il est recommandé de la verser pour le fœtus de 4 mois ou plus. Et chacun peut verser sa propre zakat, mais il est aussi permis aux responsables de famille de la verser pour ceux qui sont à sa charge. Deuxièmement, On doit verser pour cette aumône de la nourriture commune des gens du pays, comme le riz, les pâtes, le couscous, la semoule, la farine, et les légumes secs comme les haricots, les lentilles, les pois cassés et autres. Et les aliments tels que le sucre, la viande, l'huile, les bonbons ne sont pas valides pour Zakat al-Fitr. Et comme on a dit, cette zakat doit impérativement être versée en nourriture et il n'est pas permis de verser son montant en argent. Troisièmement, quelle est la quantité qui doit être versée? On a dit que la mesure obligatoire est d'un sa'a. Un sa'a par personne, d'un seul et même aliment. Et le sa'a, comme on a dit, est un volume dont le poids varie selon les aliments. Il est donc préférable de l'évaluer à 3 kilos, quel que soit l'aliment, afin d'être sûr d'avoir atteint le sa'a. Quatrièmement, quand doit-on la verser? On a dit qu'elle doit être versée avant la prière de l'Aïd. Il est permis de la verser un ou deux jours avant l'Aïd, et le mieux est de la verser le matin de l'Aïd, entre la prière du Fajr et la prière de la fête. Et avant cela, il est permis de la donner à une personne ou à une association, à condition que ce soit une association de confiance ou une personne de confiance qui se chargera de la verser au moment légiféré à ses ayants droit. Et elle ne doit pas être retardée au-delà de la prière de l'Aïd. Enfin, à qui doit-elle être donnée? Elle ne doit être donnée qu'aux pauvres parmi les musulmans. Et le pauvre est celui dont les biens ou les revenus annuels ne lui suffisent pas à combler ses besoins essentiels ainsi que les besoins de ceux qui sont à sa charge. Et comme on a dit, il est permis de donner à un pauvre plus d'une zakat, comme il est permis de partager une zakat entre plusieurs pauvres. Ceci était donc quelques points essentiels à savoir au sujet de l'aumône de la rupture. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter les dernières nuits et les derniers jours de ce mois et de nous aider à clôturer ce mois dans le bien et les bonnes œuvres. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم